La Chine étonne, la Chine inquiète, la Chine questionne, la Chine fascine. Bruit de Chine, une approche du monde chinois dans toute sa diversité. Bonjour, Ni Hao, et bienvenue sur le 106.6 de Radio Campus Lille pour la 104e édition de Bruit de Chine, une émission préparée et présentée par Françoise Abjoie. Nous sommes le mardi 24 mai 2016, il est 14h dans le studio de Radio Campus à Villeneuve-d'Ascq, enfin 14h passées de 4 minutes, et il est 20h à Pékin où il fait environ 20 degrés après une chaude journée ensoleillée où le thermomètre était aux alentours de 31 degrés. Au programme de Bruit de Chine ce mois-ci, histoire et économie, avec la diffusion aujourd'hui de mon entretien avec Alain Caporossi, secrétaire général de la Fédération nationale des amitiés franco-chinoises, à propos du développement contrasté de la Chine et des 30 glorieuses à la chinoise. J'ai rencontré Alain Caporossi lors d'une conférence qu'il a récemment donnée à Lille à Voyageurs du Monde, invité par les amitiés franco-chinoises de Lille. Nous avons évoqué ensemble l'histoire économique de ces 30 dernières années qui ont vu la Chine sortir de la révolution culturelle et s'ouvrir au monde grâce aux positions visionnaires de Deng Xiaoping. Pour arriver au résultat d'aujourd'hui, c'est-à-dire faire que la Chine devienne le premier pays du monde pour le PIB à parité de pouvoir d'achat. Il a fallu moderniser le pays et faire progresser la production et le pouvoir d'achat. Ce ne fut pas chose facile. En une génération, plus de 400 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté. Et la classe moyenne est plus importante en Chine. Bon, logique me direz-vous, puisque la Chine est bien plus peuplée que les États-Unis. Cela fait tout de même 109 millions de classe moyenne aux en Chine, alors qu'aux États-Unis, elle est à 92 millions. Même si la croissance est actuellement à son taux le plus bas depuis 25 ans, c'est-à-dire à 6,5%, cela ne veut pas dire que la Chine est finie. Elle est juste en mutation, ce qu'elle est d'ailleurs depuis 30 ans. Les prochaines années nous diront où le rêve chinois mènera le monde et ce qu'il adviendra de l'économie socialiste de marché. En attendant, Alain Caporossi nous livre son regard sur l'histoire du développement de la Chine depuis 30 ans, un exercice de mémoire indispensable pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Alain Caporossi, bonjour.
Bonjour.
Alors, le 3 mars dernier, s'ouvrait la session plénière de l'Assemblée nationale populaire. Mais pour comprendre la Chine d'aujourd'hui, il faut remonter au début des années 80 et au petit timonier.
Et oui, voilà, Deng Xiaoping, quand il succède à Mao Tse-tung, se rend compte que le pays est vraiment complètement arriéré. 71% de paysans, 81% de ruraux, c'est les caractéristiques d'un pays profondément sous-développé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des missions un petit peu partout à l'étranger, dans toutes sortes de pays, pour voir comment ces pays ont évolué et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer de bénéfique, de positif pour la Chine. Alors il se rend compte par exemple qu'il ne faut surtout pas faire comme au Mexique ou en Égypte, des bidonvilles innombrables à proximité des villes, les gens croyant qu'en ville ils trouveront du travail et en fait c'est une catastrophe. Voilà un petit peu le type d'expérience. Et par ailleurs, la première visite qu'il fait en tant que nouveau président de la Chine à l'étranger, c'est à Singapour. Il va voir Lee Kuan-yew. Lee Kuan-yew, qui est le précurseur et qui est celui qui a créé la puissance des petits dragons, c'est-à-dire Singapour, Taïwan, la Corée du Sud et Hong Kong, qui se sont développés d'une manière considérable. Et il va, en quelque sorte, chercher des conseils, parce que Singapour n'avait aucune ressource, et pourtant, il y a eu un essor économique extraordinaire. Voilà un petit peu le début de l'opération avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping.
Ça veut donc dire que sans lui, la Chine n'aurait pas connu cette fulgurante ascension économique des 30 dernières années?
Alors, avant lui, le modèle qui avait été copié, c'est le modèle soviétique d'installation d'une industrie lourde qui n'existait de toute façon pas. Et quand même, pendant les années Mao, la trentaine d'années Mao, le PIB du pays a augmenté en moyenne de 5% par an pendant 30 ans, ce qui n'est pas non plus négligeable. C'est-à-dire qu'on installait une industrie lourde, surtout quand on partait de zéro, hein, une industrie lourde, mais c'est seulement une industrie lourde. Et Deng Xiaoping a considéré qu'il fallait s'ouvrir sur une industrialisation plus variée, plus vaste, et qu'il fallait créer un tissu économique modernisé. Et il a fait appel aux investissements étrangers. Il a favorisé les investissements de l'État chinois. Et à partir de là, des technologies nouvelles sont arrivées dans un pays qui avait un peu perdu l'habitude de ce type de production. La dernière fois qu'il y avait des productions d'industrie légère en Chine, c'était pendant la période des Japonais, c'était dans la période de l'occupation japonaise. C'est la période où ils étaient surtout implantés dans les régions côtières, puisque l'île Japon avait besoin de communiquer, et donc ils s'étaient installés là. Et il y avait des petites manufactures du type petite horlogerie, enfin des petites choses comme ça, mais pas plus. Donc voilà le démarrage de l'économie, de l'industrie légère, disons.
Alors finalement, comment faire passer un pays comme la Chine en une génération du 19e siècle au 21e siècle ?
Eh bien, les étapes ont été variées, ont été multiformes, et il a été difficile pour les Occidentaux de se rendre compte de ce qui se passait, y compris parce que les experts des premiers temps, les experts occidentaux, quand la Chine de Deng Xiaoping a dit les pourcentages d'augmentation du PIB en Occident, je lisais les bouquins à caractère économique à l'époque, au début des années 80, disaient de toute façon c'est de la rigolade, c'est impossible, aucun pays ne l'a jamais fait, même le Japon à l'époque où il a explosé sur le plan commercial et industriel n'a pu réussir une chose pareille. Alors imaginez avec un pays le plus peuplé du monde qui sort de beaucoup plus bas, c'est pas possible. Puis quand les Chinois ont commencé à publier leurs premières statistiques, ils ont dit de toute façon, comme du temps de Mao, on triche les statistiques parce que les cadres locaux ont peur de ne pas tenir le plan, parce qu'à l'époque c'était le plan. Il y a eu aussi des réticences à l'intérieur même de la Chine, parce que l'idéologie marxiste-léniniste avait formaté les esprits avec l'idée du plan, le plan quinquennal, tout ça. Alors c'est resté, ça continue à fonctionner comme ça, mais avec une souplesse qui n'était pas de mise dans les temps antérieurs. Et voilà un petit peu comment les choses ont commencé à émerger. Puis quelques années plus tard, les Occidentaux se sont dit « mais bon, apparemment quand même c'est vrai ». C'est pas seulement qu'ils trichent les statistiques, bon, ils trichent peut-être un petit peu, mais il doit y avoir quelque chose derrière. Et comme les investisseurs étrangers se sont installés dans un premier temps dans les provinces côtières, alors provinces les plus peuplées et de loin, mais bande de territoire à la superficie la plus petite, il y a eu trois zones qui ont été déterminées, et Deng Xiaoping et toute l'équipe dirigeante de l'époque, qu'il ne fallait pas éparpiller les efforts, qu'il fallait faire des expériences ponctuelles pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc création des zones économiques spéciales, comme Shenzhen, par exemple, à côté de Hong Kong, Zhuhai, à côté de Macao. Et à partir de ces expériences, tirer profit pour voir les possibilités d'adaptation à la Chine. En même temps, c'était un laboratoire pour les Chinois de se familiariser avec des techniques et des technologies modernes, nouvelles. Il a fallu former toute une première génération d'ouvriers, de simples ouvriers, et c'est là que s'est constituée l'usine du monde, l'atelier du monde, dans un premier temps. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé qui aurait été totalement impensable dans nos pays occidentaux, c'est que dans cet état d'esprit d'expérimenter ponctuellement, localement, pour voir ce qui marche, parce qu'ils ont dit, voilà, il va falloir qu'on fasse des investissements importants, il va falloir qu'on fasse appel à des investisseurs étrangers pour qu'ils y trouvent leur compte et qu'ils aient intérêt à continuer. Si on fait ça à l'échelle de tout le pays entier, on va éparpiller les efforts des uns étrangers et des autres, nous, État chinois central, et ça risque de rien donner. Donc, ils ont pris la décision incroyable de dire, voilà, pendant les 20 ans qui viennent, années 80, années 90, jusqu'au début du 21e siècle, on met le paquet pour assurer le développement des provinces côtières et des grandes villes qui sont des ports ouverts sur l'étranger. Politique d'ouverture, il faut être là où il peut y avoir une ouverture sur le monde étranger, notamment par les voies maritimes. Puis les voies aériennes aussi, petit à petit. Et donc, pendant 20 ans, on favorise une partie du pays et on verra plus tard pour les autres. On prend l'engagement qu'en l'an 2000, on aidera les autres, 20 ans plus tard. Alors, vous voyez, on est dans un système de raisonnement de politique à long terme, de politique économique et de politique au sens général de gouvernance du pays. Et les Chinois l'ont accepté.
Ça s'appelle l'économie planifiée. Quelles ont été les réformes engagées pour que la Chine puisse entrer dans le camp des pays capitalistes, ce qui fut officiellement fait en 2001 avec leur entrée dans l'OMC ?
Alors, il y a eu tout un cheminement très long. Et je pense qu'on peut peut-être revenir sur quelques détails de cette période, parce que c'est important de connaître quelques détails pour comprendre comment ça a marché, quoi, en définitive. Alors, il y a eu d'abord une étape de nécessité d'accorder la priorité quand même au développement des zones rurales. Pour éviter le phénomène de transport massif de population vers les villes des provinces côtières. Il y a eu le maintien de ce qu'on appelle le passeport intérieur, le hukou, qui ne permettait pas aux paysans des contrées reculées de la Chine trop facilement de venir s'installer dans les régions qui se développaient. Et il y a eu aussi la politique de... Pour éviter l'exode rural, on a organisé un exode agricole, voilà, fondamentalement, qui concernait des centaines de millions de personnes. C'est-à-dire que pour éviter que ces gens aillent vers les villes, là où il y avait, entre guillemets, du travail, on a organisé dans le tissu rural la création de milliers, de dizaines de milliers de petits bourgs. C'est-à-dire que les paysans, en même temps qu'on leur donnait la possibilité de produire d'avoir un lopin. Et il y avait un double système économique, une liberté d'une part, et d'autre part l'obligation de continuer à produire des céréales qui rapportent moins. Par exemple, dans les régions proches de Hong Kong, à un moment donné, au cours de mes voyages, j'ai vu des champs entiers de fleurs, des rosiers. Ça paraissait bizarre, alors qu'avant, c'était que des rizières. Mais non, parce que les paysans proches de Canton, par exemple, eux, ils pouvaient vendre sur le marché un produit qui rapportait plus. Mais quand même, ces paysans-là, on les obligeait à produire un quota de grains pour nourrir les citadins des villes. Parce que paradoxalement, au début des réformes, on vivait mieux en définitive, on était un peu plus préservé de la famine à la campagne, parce que on pouvait quand même se servir de au moins de céréales, qu'en ville, où il y a eu des problèmes considérables. Donc voilà un petit peu l'origine, c'est-à-dire que si les paysans ont accepté d'attendre 20 ans pour que ce soit leur tour, enfin les provinces intérieures, de passer à une phase de développement accéléré, c'est parce qu'on a créé... Alors les petits bourgs, c'était des... Alors eux, ils appelaient ça des villages, mais pour nous, c'était des villes moyennes. On créait un collège, on créait des magasins, on créait des ateliers de fabrication de ceci, de cela. À l'époque, j'ai visité des usines qui fabriquaient des chaussettes, d'autres qui fabriquaient des rayons de vélo. Enfin, oui, c'était très, très parcellaire, pointu. Mais au bout du compte, on donnait du travail à des gens qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins seulement en cultivant la terre. C'est-à-dire, à la fois, ils étaient paysans selon les saisons, pour la riziculture dans le sud de la Chine ou pour les céréales sèches dans le nord de la Chine. Et par ailleurs, ils avaient sur place, à proximité, des ateliers de fabrication des choses qui nécessitaient très très peu de technologie et très très peu de compétences. Voilà la vue d'ensemble d'un pays quand même 17 fois plus grand que la France et 22 fois plus peuplé. C'est un État-continent. C'est une donnée qu'il faut vraiment avoir à l'esprit fondamentalement quand on parle de la Chine de tout temps. La Chine de Mao, la Chine de Deng Xiaoping et la Chine maintenant de Xi Jinping.
Alors on saute 30 ans allègrement et on arrive en décembre 2015, en pleine tourmente boursière chinoise, le yuan entre dans la cour des grands et devient une monnaie de réserve internationale. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour l'économie chinoise et l'économie mondiale ?
Alors, c'est le droit de tirage spéciaux. On a appelé ça le droit de tirage spéciaux, c'est-à-dire que à côté de quatre autres monnaies, le dollar américain, la livre sterling, l'euro et le yen, le yuan est admis comme selon une conception de 1969 du franc monétaire international, il est admis comme un pays dont la monnaie fera partie d'un panier et aura une reconnaissance en quelque sorte internationale. Mais alors ça a agité les Occidentaux. Et là, je peux vous donner un ou deux témoignages, quoi, de ce que ça a été comme choc, comme surprise même. Pour ces droits de tirage spéciaux, Patrick Artus, économiste et directeur de recherche chez Natixis, a dit qu'il ne comprenait pas qu'une monnaie non convertible puisse faire partie des cinq monnaies qui constituent le panier mondial du top, quoi. Et il dit qu'il pense que le FMI a voulu montrer ainsi sa volonté de donner un rôle plus important à la Chine. Et dans un colloque qui se tenait en France, Jean-François Di Meglio, président d'Asia Center, au colloque « La Chine, ses défis vers le nouveau modèle de développement » en décembre 2015, donc tout récemment, s'étonnait également. Et il disait « Nous ne savons pas comment on peut faire une monnaie de réserve d'une monnaie non convertible. J'ai partagé le même scepticisme que Patrick Artus. Comme cela me perturbe dans ma pseudo-orthodoxie financière. Mais les Chinois ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait. » Nous-mêmes ne savions pas qu'on pouvait penser que c'était possible parce que les autres pensaient que c'était impossible et ça s'est fait. Et il termine en disant c'est cela la partie logique de la logique chinoise. Ça fait partie de la logique chinoise. Donc voilà des choses qui se passent. Et on pourrait revenir quelques années plus tôt, Marie-Claire Bergère avait fait une communication qui a eu un retentissement considérable un petit peu partout dans le monde occidental. Quand elle a réalisé qu'avec la stratégie chinoise, il y avait eu une méprise, on n'a pas compris ce qui se passait. Et François Chiang, par exemple, le président du comité France-Chine économique et commercial, dit « Mais on a considéré que la Chine avait une stratégie, mais en fait, la Chine n'a pas de stratégie. La seule stratégie qu'elle a, c'est le pragmatisme, l'empirisme, et de voir à chaque moment de faire les choses qui semblent les plus nécessaires, indispensables, profitables pour la Chine. » Alors, pour en revenir à Marie-Claire Bergère, elle a en quelque sorte constaté qu'il y avait il y a eu un malentendu pendant longtemps. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux considéraient qu'il y avait une manière et une seule d'accéder au marché. C'est celle qu'avaient suivi les pays occidentaux. Et ils n'ont pas imaginé qu'il était possible, envisageable, de faire autrement. Alors, dans une communication un peu brillante, elle a parlé du refoulé occidental. Et c'était en 2010 qu'elle a fait une communication en analysant les faits du développement de la Chine qui contredisaient les schémas préalables que les Occidentaux pouvaient avoir à l'esprit en matière de développement. Et elle explique que l'Occident a réalisé sa méprise, aveuglé par ses convictions et par l'ampleur de la réussite chinoise. Parce que pendant des années, on lisait, la Chine... Ils annoncent des progressions, mais d'abord, est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce qu'ils racontent des blagues ? Est-ce que les statistiques sont truquées ? Et il y a déjà longtemps que des analystes avaient pointé la chose suivante. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes méthodes que nous de dresser des statistiques, mais ils les dressent de la même manière depuis le début des années 80 jusqu'à maintenant. Et donc c'est cette à l'aune de ce modèle d'appréciation des résultats qu'il faut se fixer. Et elle constate que ce modèle chinois, en définitive de développement, s'il contredit ce qui étaient les croyances antérieures, il a posé un problème qu'on appelait au plan mondial l'émergence du consensus de Pékin par rapport au consensus de Washington. Et cette modernisation autoritaire et pilotée n'est pas seulement question de ressources ou d'échelle, mais elle se fonde sur un véritable art de gouverner.
Alors, est-ce que c'est ce pragmatisme et cet art de gouverner qui explique la résistance de la Chine à la crise globale de 2008 ?
Oui, alors, je crois qu'avant la crise globale de 2008, il faut parler de la crise asiatique de 1998, où la Chine, parmi les pays asiatiques, les dragons, a refusé d'écouter les injonctions du FMI et les injonctions internationales, a refusé d'évaluer le yuan, comme le Japon, la Corée, etc. Et moi, par exemple, j'ai fait un voyage en Corée il y a quelques années, et en discutant avec les responsables, ils nous disaient qu'en Corée, quand il y a eu la crise de 1998, l'État, pour donner des garanties au système bancaire mondial, a demandé aux Coréens d'apporter dans les banques leurs bijoux, l'or, les choses comme ça, pour qu'on puisse en faire le compte et puis qu'on puisse dire aux autres pays, écoutez, voilà, chez nous, c'est pas comme chez vous. Quand on fait un appel à la bonne conscience du peuple, à la bonne conscience de la solidarité, les gens ont suivi et il y a tant de... On peut le prouver, vous pouvez venir vérifier. Il y a tant de masses d'or dans les banques et donc la Corée n'est pas au bord de la rupture et tout, comme vous le dites. Et donc, il faut faire attention à modérer vos injonctions. C'est relativement incroyable et exceptionnel. Pour nous, c'est impensable. Bon, voilà. Alors, en 1998, les autres pays asiatiques, Japon y compris, ont signalé et dit ultérieurement qu'ils remerciaient la Chine d'avoir refusé de dévaluer le yuan, ce qui aurait accentué la dégringolade, et qu'ils sont reconnaissants d'avoir montré qu'en définitive, on pouvait faire autrement, et eux-mêmes auraient pu faire autrement, et qu'à l'avenir, ils seraient plus fermes par rapport aux injonctions, disons, occidentales, quoi. Si bien que, quand il y a eu la crise de 2008, tout le monde se souvenait de cet épisode, surtout en Asie. On n'en a guère parlé chez nous de la crise asiatique de 2008. Et c'était les valeurs asiatiques, entre guillemets, confucéennes, de tous ces pays-là, contre l'orthodoxie monétaire, financière, économique, internationale, entre guillemets, donc occidentale. Et quand il y a eu la crise de 2008, la Chine, là aussi, a pris des décisions pragmatiques, des décisions qu'elle prenait en connaissance de cause de son terrain à elle, de ses réalités à elle, de ses possibilités à elle, et pas en fonction de la dégringolade et des catastrophes que l'Occident n'arrivait pas à endiguer. Il fallait que les États aident les banques à survivre. Il y en a qui n'ont pas résisté, du reste, comme chacun sait. Enfin, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et ils ont fait un plan d'investissement considérable, 3 fois supérieur à celui des États-Unis, 10 fois supérieur à ceux de la France et de l'Allemagne. Et ça a été, si vous voulez, les Chinois, le mot « crise ». Il y a 2 idéogrammes, « wei ji ». L'un veut dire « danger », l'autre « opportunité ». Voilà, la crise pour les Chinois, que ce soit en médecine, que ce soit dans tout n'importe quel domaine, c'est une situation dangereuse, mais c'est une situation, si on est une vision yin-yang, qu'on ne panique pas et qu'on prend un recul sereinement et on analyse sereinement la situation, ça peut être l'occasion de dépasser un palier de développement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les investissements, par exemple, pour encore plus moderniser les entreprises, pour créer des réseaux de communication modernes. Et ainsi, par exemple, maintenant, ils ont le premier réseau de TGV du monde, pour construire des aéroports. Enfin, et surtout, il y avait eu, depuis l'an 2000, la politique de voler des deux ailes, qui a été accentuée en 2008, voler des deux ailes, c'est-à-dire les promesses faites au départ. Jusqu'en l'an 2000, on favorise les provinces côtières. Les investissements d'État vont majoritairement vers les provinces côtières. Et à partir de 2000, on change tout. Ils ont tout changé. C'est-à-dire, le 1er janvier 2000, plus un investissement d'État chinois ne va dans les provinces enrichies. Vous avez eu votre chance, on vous a donné, et maintenant on investit dans les provinces de l'intérieur, les provinces du centre et de l'ouest de la Chine, et c'est leur tour.
Nous écoutions Alain Caporossi, secrétaire général de la Fédération nationale des amitiés franco-chinoises, à propos du développement contrasté de la Chine de ces 30 dernières années.